إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد الرسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب حسن الملكة، فننتقل إلى الحديث التالي إن شاء الله تعالى، وهو قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. Donc on passe au hadith suivant, qui est le hadith numéro 157 du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, avec le charh de Sheikh Raslan hafidhahullah. Donc il dit dans ce hadith, l'imam al-Bukhari rahimahullah: Muhammad ibn Sabiq nous a rapporté et a dit, Israël nous a rapporté, selon Al-A'mash, selon Abi Wa'il, selon Abdillah, selon le prophète alayhi salat wa salam, qui a dit: répondez à celui qui invite, yani répondez à son invitation, et ne rejetez pas le cadeau, yani ne refusez pas le cadeau, et ne frappez pas les musulmans. طيب. فهذا الحديث صحيح أخرجه أيضا أحمد ابن حبان وهو حديث صحيح. Donc ce hadith il est authentique et rapporté également par l'imam Ahmed ainsi qu'Ibn Hibban. Donc c'est un hadith qui est authentique. رجال الإسناد محمد ابن سابق اختلف فيه. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أحد الأعلام، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة، وعبد الله إذا أطلق، يعني هذا ذكرنا مرارا، إذا أطلق عبد الله عند البخاري فهو ابن مسعود رضي الله عنه. Donc parmi les rapporteurs de ce hadith, on a Muhammad ibn Sabiq, sur lequel les savants du hadith ont divergé. Puis on a Israël, qui est Israël ibn Yunus ibn Abi Ishaq al-Sabi'i, qui fait partie des montagnes au niveau de du hadith et du rapport de hadith. Wa Abi Wa'il, qui s'appelle Shaqiq ibn Salama. Puis Abu Wa'il, lui, est rapporté de Abdullah. On avait dit plusieurs fois que lorsque Abdullah est mentionné sans préciser qui est Abdullah au niveau des compagnons, on avait dit que c'était Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. طيب. معاني الكلمات عجيب الداعي. قال الشيخ: وجوبا إذا كانت الدعوة لعرس وتوفرت الشروط، وندبا إن كانت لغير عرس مما يندب أن يولم له. Donc on va expliquer d'abord certains termes de hadith qui n'ont pas vraiment besoin de grandes explications, qui sont sans équivoque ici. Ajibu da'i, c'est-à-dire répondez favorablement à l'invitation de celui qui invite. Il dit le cheikh, Raslan Hafidahullah Ta'ala, de manière obligatoire, si c'est une invitation à un mariage, yani à un banquet de mariage, et bien sûr à condition que les conditions soient présentes pour pouvoir y répondre. Et de manière recommandée cette fois, lorsque ce n'est pas un banquet de mariage. Dans ce cas-là, yani, ce sera seulement recommandé pour les occasions yani, pour lesquelles on va faire un repas ou un festin. Mais si ce n'est pas un mariage, cela n'est pas obligatoire, mais seulement recommandé. وَلَا تَرُدُّ الْهَدِيَّةِ نَدْبًا وَيَحْرُمُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ عَلَى الْقَاضِي. Puis dit le prophète, عليه الصلاة والسلام, et ne refusez pas le cadeau. Il dit le cheikh, رَسَلَانَ فِيدَهَ اللَّهَ تَعَالَى, qu'ici c'est une recommandation également. Ce n'est pas une obligation que d'accepter le cadeau. Ici, c'est une recommandation. Par contre, il dit le juge n'a pas le droit d'accepter le cadeau. Hein? Quelqu'un qui est juge, qui travaille pour la gouvernance, qui est donc le rôle de juge de la société, n'a pas le droit d'accepter le cadeau. Non. ولا تضرب المسلمين هذا عام أي تلطفوا معهم بالقول والفعل هذا عام يعني في غير حد أي تلطفوا معهم بالقول والفعل فلا تضربوهم في غير حد ولا في غير تأديب أما إذا كان في حد فذلك مما لا يجامل فيه أحد وأما إذا كان تأديبا فقد مر أن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط أي حتى يتمدد ويتمرق على الأرض إذا أوجعوا بالضرب ووقع عليهم ما يكرهون وينبغي أن تؤدب اليتيم كما تؤدب ولدك وإلا كنت مسيئا إليه لا محسنا بيجي للبروفات صلى الله عليه وسلم et ne frappez pas les musulmans. Dit les cheikhs, ceci est général. Taïb, ça englobe, yani, tous les musulmans. Et ça englobe également, yani, les non-musulmans qui ont un pacte de sécurité, bien sûr, avec les musulmans, taïb, qui sont en sécurité dans les pays musulmans, ou dans leur pays, etc., etc. D'accord ? Donc il sera interdit, bien sûr, d'agresser également, bien sûr, un non-musulman. Voyez ? Naam. Donc ceci est général. C'est-à-dire, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, soyez aimables avec eux, que ce soit au niveau de la parole et au niveau des actes. Voyez ? Et bien sûr, on ne parle pas ici des peines légales prévues par la charia d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que l'on peut retrouver dans certains pays comme l'Arabie Saoudite. Voyez ? Donc il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soyez aimable avec eux par la parole, par les actes, et ne les frappez pas, bien sûr, en dehors des peines légales ou en dehors des nécessités d'éducation ou de punition. D'accord ? Donc lorsqu'on parle des peines légales, bien sûr, il sera interdit, taïeb, de ne pas faire subir la peine légale, hein, ou de faire preuve, yani, d'indulgence ou d'absolution pour certains et pas à d'autres. D'accord ? Donc ça, c'est au juge, bien sûr, de faire appliquer la loi d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et en ce qui concerne les punitions, dans le but d'éduquer, eh bien, on a vu la parole d'Aïcha, radiallahu anha, qui a dit, je frappe certes l'orphelin jusqu'à ce qu'il se roule par terre. Hein, jusqu'à ce qu'il se roule par terre. Yani, il s'étale par terre et se roule, voyez, à cause de la douleur, yani, des coups d'Aïcha radiallahu anha, et parce que ils reçoivent des choses qu'ils n'aiment pas. Donc il est important d'éduquer l'orphelin comme tu éduques ton enfant, parce que sinon, si tu le laisses dans l'égarement, si tu le laisses avoir un mauvais comportement, une mauvaise religion, une mauvaise croyance, et bien en vérité tu n'auras pas été bienfaisant envers lui, mais au contraire malfaisant envers lui. Donc si tu veux être bienfaisant envers lui, tu dois l'éduquer comme tu éduques ton propre fils ou ta propre fille. Non. Ma yukhadhu min al-hadith. هذا الحديث فيه ترغيب في ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها. العمل الأول إجابة دعوة الداعي، سواء كان لوليمة أو تكريم أو زيارة أو استشارة أو قضاء حاجة، فإن على المسلم إجابة دعوة أخيه المسلم، فيدخل عليه بذلك السرور، ويثيب له حقوق الأخوة الإيمانية، ويثبت عفوا ويثبت له حقوق الأخوة الإيمانية، وذلك بحسب استطاعته وقدرته. Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Ce hadith, donc, contient une incitation, un encouragement à faire trois choses, à faire trois bonnes actions, dont on espère la récompense auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. La première, le fait de répondre à l'invitation de celui qui t'a invité. Que ce soit pour un repas de noces, de mariage, ou pour t'honorer, ou yani, lorsque tu l'as visité, ou lorsque tu es parti chez lui pour lui demander un conseil, ou parce que tu avais besoin de lui ou autre, quelle que soit la raison, yani, hein, il est recommandé de répondre à l'invitation, sauf pour le mariage, comme il a dit le cheikh Rasulallah Fidallah Ta'ala, c'est obligatoire pour le mariage. Donc, le musulman se doit de répondre à l'invitation de son frère musulman, et ainsi il fera entrer en lui la joie, hein, la joie et le bonheur, et il affirmera de ce fait les droits de la fraternité au niveau de la foi en Allah tabarak wa ta'ala, et bien sûr cela en fonction de la capacité de chacun et en fonction des disponibilités de chacun et chacune. Taïb. قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة إليها وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال السلف رحمهم الله قال الشيخ المحدث الدهلوي رحمه الله وهذا إذا عين المدعو بالدعوة فلو لم يعينه لم تجب الإجابة بل لا تستحب لأن عدم الإجابة معلل بما فيه من كسر قلب الداعي وإذا عم فلا كسر والوجه في تأكد الإجابة عندي صيانة الطعام عن الإضاعة فإن المضيف يكثر من الطعام من الولائم ويتكلف في أيام الضيافة فلو تخلف الناس لتضرر به صاحبه
نعم
يزي الإمام النووي رحمه الله تعالى que les ulama sont unanimes sur l'obligation de répondre à l'invitation à un repas de mariage, un repas de noces. Mais ils ont divergé sur les autres repas, d'accord? Il dit l'imam Malik et la majorité des ulama que ce n'est pas obligatoire, d'accord? Alors que les gens de Dahir, Dahiriya, donc j'invite, bi'ithnillah azza wa jal, ceux qui veulent savoir ce qu'est Dahiriya, hein, à retourner yani, au livre des ulama concernant les différents madahib yani, chez les musulmans, na'am. Donc, il est obligatoire pour eux, Ahl al-Zahir, de répondre à toute invitation. Pour eux, c'est obligatoire, que ce soit un mariage ou autre que le mariage. Il dit même, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, que c'est ce que disent les salafs. Il dit que les salafs sont d'avis, rahimahullah, qu'il est obligatoire de répondre à l'invitation, que ce soit un mariage ou autre. Il dit le shaykh al-Muhaddith al-Dahlawi, rahimahullah ta'ala, il dit que c'est obligatoire si la personne, elle t'a invité personnellement. C'est-à-dire, par exemple, elle t'a appelé, elle t'a envoyé un message, et elle dit, je t'invite à tel ou tel repas. D'accord? Ou elle t'a envoyé une invitation avec ton nom dessus. D'accord? Par contre, si il ne t'a pas invité personnellement, c'est-à-dire qu'il a invité les gens de manière générale et que ceux qui veulent s'y rendre peuvent s'y rendre, dans ce cas-là, il dit le cheikh, ce n'est pas obligatoire d'y répondre et ce n'est même pas recommandé. Ce n'est même pas recommandé. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas y répondre, yani, c'est pour ne pas briser le cœur de celui qui invite. De celui qui invite. D'accord? Donc, si la personne t'a invité personnellement, le fait de ne pas y aller, ça va lui briser le cœur. Alors que si yani, il a fait une invitation générale, par exemple, il a invité la mosquée de manière générale, par exemple, et que tu n'y vas pas, ici, il n'y a pas de raison à ce que tu lui brises le cœur. Non. Et pourquoi il est si important que ça de répondre à l'invitation de la personne? Eh bien, pour ne pas, notamment, gaspiller la nourriture. Ne pas gaspiller la nourriture. Parce que celui qui va organiser un repas, généralement, il va faire beaucoup de nourriture. D'accord? Que ce soit un mariage ou autre. Et il va même s'y atteler pendant des jours afin d'honorer ses invités. Et si donc les gens ne répondent pas à l'invitation, eh bien cela va porter préjudice à la personne qui les a invités. من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل وأن لا يكون من منكر من خمر أو له أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية الذهب أو فضة فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ومن الأعذار أيضا أن يعتذر المدعو إلى الداعي فيتركه. Donc parmi les excuses qui te permettent de ne pas répondre à l'invitation, il y a des excuses qui font que ce n'est plus obligatoire de répondre à l'invitation. Parmi elles, si tu sais que dans la nourriture il y a un doute, un soupçon, tu ne sais pas si la nourriture, elle est licite ou pas, elle est halal ou pas. Bien sûr, des soupçons légitimes, pas juste une insufflation de shaitan, mais avec des preuves, etc. etc. Ou alors, c'est un repas, yani, qui est spécifique aux riches, donc tu n'as pas envie de participer à ce genre de repas. Ou alors, le fait de t'y rendre, ça va causer du tort à quelqu'un d'autre qui sera présent. Dans ce cas-là, vaut mieux ne pas y aller. Et c'est une excuse pour toi de ne pas y aller. Ou alors, c'est une assise dans laquelle il ne convient pas de s'y rendre. Ou alors, la personne qui t'a invité, elle t'a pas invité parce que elle a envie que tu viennes, mais elle t'a invité parce qu'elle a peur de toi. Elle a peur de ton mal. Ou alors, parce qu'elle désire, par ta cause, yani, avoir une place dans la société. Par exemple, elle travaille ou autre. Donc, c'est pas vraiment pour toi, mais pour un intérêt. Ou alors elle t'a invité afin que tu l'aides dans un mensonge, quelque chose de faux, de haram. Et également, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait, durant ce repas, de choses répréhensibles, telles que de l'alcool, ou de la distraction interdite, telles que de la musique, ou autre, ou alors des tapis de soie, ou des images d'animaux, qui ne sont pas au sol, étalés au sol, ou des récipients en or, ou des récipients en argent. Donc toutes ces choses-là, naissant des excuses qui te permettent de délaisser la réponse à l'invitation. Et parmi les excuses recevables également, le fait que tu appelles la personne et que tu t'excuses. D'accord? Donc si tu appelles la personne et tu t'excuses en disant « Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir » et que la personne accepte que tu ne viennes pas, là, tu es excusé. Bismillah azza wa jal. ثم قال العمل الثاني قبول الهدية فلا يردها لأن الهدية تحصل بين الأصحاب وبين الإخوان وبين الجيران بقدر الاستطاعة وهي رمز الصلة والأخوة والمعروف فلا يردها المهدى إليه وإن قلت بل يقبلها ويثيب عليها أي يكافئ عليها حتى إذا لم يجد ما يكافئ به دعا لمن أهدى إليه هدية قائلا له ها جزاك الله خيرا وهذا خير ما يكافئ به من صنع معروفا الى اخيه سواء رجل أو امرأة، والهدايا بين النساء وبين الرجال وبين الأسر وبين الأصحاب، فهي رمز الأخوة والمحبة ومجلبة الخير. Et enfin, la deuxième œuvre dont a parlé ici le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'acceptation du cadeau, le fait d'accepter le cadeau. D'accord ? Donc le musulman ne le refuse pas. Parce que le cadeau, yani, est une chose qui se donne entre amis, ou entre frères, ou entre voisins, en fonction bien sûr de la capacité. Et c'est le symbole du lien, le symbole de la fraternité et du convenable. Et donc celui à qui on a offert un cadeau, il ne refuse pas le cadeau, même si c'est un petit cadeau qui est insignifiant. Il doit l'accepter et il doit récompenser même la personne par rapport à ce cadeau. Ça y est, il la récompense par en lui faisant un autre cadeau à son tour, ou alors s'il n'a pas de quoi lui offrir un cadeau, eh bien, il fait une invocation pour celui qui lui a offert ce cadeau-là en disant « Jazakallahu khayran » « Qu'Allah te rétribue en bien » et cela est mieux. Cela est mieux, yani, que toute chose que tu pourrais lui donner en récompense à celui, yani, qui t'a fait du bien ou qui a fait du bien à son frère, que ce soit un homme ou une femme. Donc les cadeaux se font entre femmes, entre hommes, dans la famille, entre les amis. Et c'est donc le symbole de la fraternité, le symbole de l'amour. Et c'est une source de bien immense. والعمل الثالث التحذير من إيذاء المسلمين بالضرب ونحوه سواء ضرب الصغير أو الكبير أو الذكر أو الأنثى وهو نهي عن جميع ما يؤذي المسلمين من كلام أو أخذ مال وغش أو اعتداءات بالضرب والشتم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Et enfin la troisième œuvre mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mise en garde contre le fait de faire du mal aux musulmans, que ce soit en le frappant, voyez, que ce soit un enfant ou un adulte, un garçon ou une fille, voyez. Donc ici on a l'interdiction de faire du mal, de tout ce qui pourrait nuire aux musulmans, soit à travers la parole ou à travers le fait de s'accaparer de ses biens ou de le trahir ou de l'agresser en le frappant ou l'insultant. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman sur le musulman yani, est sacré, c'est-à-dire que le musulman n'a pas le droit de porter atteinte, yani, il dit damuhu, à son sang, c'est-à-dire à son intégrité physique, maluhu, à ses biens, wa irduhu, et à son honneur. والاحترام بين المسلمين والمسلمات هو المشروع وهو الذي يجب أن يكون سائدا بين المسلمين من عرفت منهم ومن لم تعرف وأعمال كلها تنفع المسلم في دنياه أخرى من ذلك إفشاء السلام بدل الإيذاء للمسلم إفشاء السلام بين المسلمين وهو دليل المحبة وسببها أن تسلم على من لقيت في الطريق أو قدمت عليه أو زرته تبدأه بالسلام وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فتسلم وأنت ماش وأنت راكب تسلم على الماشي وعلى الجالس وعلى الفرد وعلى الجماعة فهو دعاء مبارك تعود منفعته على المسلم أي على المسلم عفوا وعلى المسلم عليهم. Puis dit le cheikh, le respect donc, ça c'est le respect entre musulmans et musulmanes qui est légiféré et qui est, doit être de manière obligatoire un guide pour les musulmans. Que le musulman, tu le connaisses ou pas, d'accord ? Donc toutes les actions, hein, dans toutes les actions, qui peuvent profiter aux musulmans ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi donc ces œuvres qui profitent aux musulmans ici-bas et dans l'au-delà, le fait de diffuser, de passer le salam, de passer le salam. Au lieu de faire du mal aux musulmans, eh bien, on doit au contraire passer le salam, d'ailleurs, les musulmans les uns aux autres. Et ça, c'est le salam, c'est la preuve de l'amour. Et la preuve et les causes qui engendrent également l'amour entre les gens. D'accord ? Donc, tu dois Passer le salam à celui que tu croises dans la rue, à celui que tu visites, à celui que chez lequel tu te rends, et tu commences donc par le saluer. D'accord? Comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, awala adullukum ala shay'in, ne vous indiquerai-je pas une chose que si vous la faites, vous vous aimerez, passez le salam entre vous. Donc tu passes le salam si tu es assis, tu passes le salam si tu es sur une monture, tu passes le salam à celui qui est assis, tu passes le salam à celui qui est sur une monture également, à celui qui est seul ou à un groupe. D'accord? Donc le salam, c'est une invocation. Faut pas oublier que c'est une invocation qui est bénie et dont les bénéfices sont énormes pour le musulman ou pour celui qui passe le salam, ainsi que pour celui à qui on a passé le salam. وأما إيذاء المسلم بالضرب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو السخرية منهم فهذا لا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يصدر منه ذلك فإذا صدر منه شيء من ذلك بادر إلى التوبة وطلب السماحة ممن اعتدى عليه لأن التحلل في الدنيا هو الأصل وأما يوم القيامة فلا يعفو أحد عن أحد أبدا حتى الوالد لا يعفو عن ولده ولا المولود يعفو عن والده كما أخبرنا الله عز وجل بذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Et pour finir, inshallah ta'ala, il dit donc le fait de causer tort aux musulmans en le frappant, en l'insultant, ou en médisant de lui, ou en, en colportant des choses à son encontre, ou en se moquant de lui, tout cela n'est pas permis. Cela ne convient pas aux musulmans de faire cela. Et si jamais il tombe dans ce genre de péché, il doit se dépêcher de se repentir et de demander pardon, hein, à celui à qui il a causé du tort à travers ces actes-là. Parce que la base, eh bien, c'est que la personne demande pardon et règle les comptes sur terre, règle ses comptes sur terre. Quant au jour de la résurrection et au jour du jugement, eh bien, personne ne pardonnera à qui que ce soit, yani entre les créatures. Il dit les chers, personne ne pardonnera à qui que ce soit parmi les créatures. Il dit même le Père ne pardonnera pas à son fils, et même l'enfant ne pardonnera pas à son père, comme Allah tabarak wa ta'ala nous l'a dit dans la sourate Luqman, verset 33 de l'océan, on se rapproche du verset. Ô les gens, craignez votre Seigneur et redoutez un jour dans lequel un père ne s'occupera pas du cas de son enfant et ni l'enfant du cas de son père. Vous voyez, donc personne ne répondra au cas de l'autre. Tout cela doit se faire ici-bas. Ici-bas, avant la mort. Et pas après, car cela sera trop tard. Allah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, et on continuera jeudi prochain. On passera au hadith numéro 158, bien là, du même chapitre. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.